Amen. Merci, c'était top. Gloire à Dieu, effectivement. Je me suis pris la tête avec le message jusqu'à ce matin. Donc on va prier. Parce que le message, la parole que le Seigneur veut apporter, c'est une parole qui doit prendre nos cœurs. Qui doit saisir nos cœurs. Alors que cette parole puisse saisir nos cœurs ce matin à chacun. Seigneur, je te loue. Je te loue, oui, de ce que nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais nous sommes tes fils et tes filles, quand nous t'avons donné nos vies, Seigneur. Tu veux remplir nos vies de ta présence, de ta personne. Tu veux vraiment les transformer. C'est ce que tu veux à chaque instant, Seigneur. C'est ce que tu veux, non seulement chaque dimanche matin, mais Seigneur, à tout moment, chaque jour de la semaine, à chaque instant de chaque journée, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire puissamment ce matin, ce que tu as déjà commencé, ce que tu vas continuer. Amen. Le message ce matin s'intitule « Retrouver qui je suis ». C'est pas moi. Retrouver qui je suis. Est-ce que vous savez qui vous êtes ?
Enfant de Dieu.
Oui, bien. Mais est-ce que tu sais, toi, là où tu es, est-ce que tu sais qui tu es au plus profond de toi? Ouais. Est-ce que tu sais toujours qui tu es au plus profond de toi? Est-ce que tu sais toujours quelle est ta destinée? Est-ce que tu marches toujours dans l'appel qui est sur ta vie? Est-ce que parfois... Est-ce que tu es toujours satisfait de qui tu es? Ne t'arrive-t-il pas de trop te comparer aux autres? Est-ce qu'il t'arrive parfois d'essayer de manipuler un peu l'autre de manière plus ou moins subtile pour arriver à tes fins? Est-ce qu'il peut t'arriver parfois de te laisser contrôler, de ne pas signifier tes limites, hein, de ne pas te faire respecter, dire stop? Est-ce qu'il peut t'arriver parfois de prendre le rôle, un rôle, une responsabilité, une place qui n'appartient qu'à l'autre, pas à toi? Ou au contraire, de laisser un rôle, une place, une responsabilité qui n'appartient qu'à toi. Est-ce qu'il peut t'arriver, parfois, est-ce qu'il a pu t'arriver de te demander, mais qui je suis en fait, jusqu'à me confondre avec l'autre? C'est difficile hein, de répondre à ces questions par un oui ou un non franc. Je vous dirais, ça dépend, je ne sais pas ce que vous allez répondre dans votre cœur. Et toutes ces questions, finalement, toutes les réponses qu'on peut essayer d'y apporter, elles disent l'état général de l'être humain aujourd'hui, l'état général de l'humanité aujourd'hui, depuis que l'humanité s'est détournée de Dieu. Elle dit que nous avons perdu le sens de qui nous sommes. L'être humain a perdu le sens de qui il est. En ce moment, vous vous souvenez, je parle des principes de vie de Dieu, ou des lois de Dieu. Ces principes de vie de Dieu, ce sont des principes qui nous indiquent deux sens, la mort ou la vie. Si je suis les lois de Dieu, je vais dans le sens de la vie. Et puis il y a un feu rouge, un stop qui me dit « Hop, va pas par là !» Sinon, c'est la mort. Ça, c'est un premier principe de vie. Toutes les lois de Dieu, elles vont... C'est des poteaux indicateurs qui nous indiquent la vie ou la mort. Le deuxième principe de vie dont j'avais parlé, et c'est le fait que l'homme soit sorti de ce principe de vie-là, qui fait qu'il ne sait plus qui il est, il a perdu le sens de qui il est, c'est quand Dieu nous a placé l'homme dans un jardin et lui a dit « Tu peux manger du fruit de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais pas de celui » de l'art de la connaissance du bien et du mal. Et je disais, mais une autre traduction, ça pourrait être « Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas tout être. Tu ne peux pas être tout. Comme moi, je suis tout. Parce que je t'ai créé avec des limites. Tu es un être de chair et de sang. Et j'ai fait exprès. Pour que tu... Je t'appelle à respecter ces limites pour que ta vie, elle puisse se développer en toute sécurité, en moi. Mais aussi, le Seigneur a fait de nous des êtres de chair et de sang, mais aussi des êtres appelés à être des temples. Des temples qui accueillent sa vie, qui accueillent son esprit. Nous sommes appelés à dépasser ses limites avec lui. Mais quand l'homme a décidé d'écouter plutôt la voix du tentateur qui lui dit « Mais non, tu peux être tout, tu peux être Dieu. » Et qu'il a cédé à ce désir de toute puissance, bam, il est sorti finalement de cet ordre que Dieu avait établi. Il est sorti finalement de la place. Ce principe de vie, elle établissait son rapport à Dieu, sa place par rapport à Dieu, et du coup sa place par rapport au monde et aux autres. Et en sortant de cela, tout s'est déplacé. Et du coup, l'homme a perdu le sens de qui il est, et le sens de qui est l'autre, et c'est le bazar dans les relations. Et des relations qui sont censées être source de vie peuvent être source d'injustice, de blessure, de destruction, de mort. Et finalement, c'est venu toucher un autre principe de vie de Dieu, une autre loi de Dieu, ça a mis à mal cette autre loi de Dieu dont je vais parler ce matin, qui est, on pourrait appeler, la loi d'identité. Appelé comme ça. Cette loi comme quoi nous avons tous une identité, nous avons tous une personnalité qui est unique. Et cette identité, elle est appelée à se développer sur un chemin, enfin selon Dieu, sur un chemin qui nous est propre, dans une juste relation avec les autres. Et ce principe de vie, cette loi, le Seigneur l'a rappelé à un homme qui vivait, peut-être pas lui, mais au moins sa famille, mais en tout cas l'environnement dans lequel ils étaient, dans le désordre, la confusion. Cet homme, je ne sais pas si vous devinez qui c'est, pour ceux qui connaissent la Bible, si vous voulez avoir des personnes parmi vous qui ne le connaissent pas, cet homme c'est Abraham. Abraham. Abraham, dont on entend parler de l'histoire de sa famille dans Genèse 11. Vous savez par quoi on commence Genèse 11 ? Ça commence par le récit de la tour de Babel. Babel, ça signifie confusion, désordre. Et ça parle finalement de toute cette confusion et tout ce désordre dans lequel les hommes étaient rentrés ou continuaient d'aller de plus en plus après le déluge. Et dans lequel était aussi la famille de la famille d'Abraham. Abraham vivait avec sa famille à Ur en Chaldée. Il y a des recherches archéologiques qui ont montré que dans cette contrée, on adorait des divinités de la fécondité humaine. Voilà, donc on mettait l'accent là-dessus. Donc, quel devait être par exemple le statut d'une femme qui n'avait pas d'enfant? Comment est-ce qu'on la regardait? Quel devait être aussi le statut d'un enfant, là-dedans, dans cette compréhension des choses? Comment ne pas mettre son enfant en place d'idole, par exemple? Tout était, ça exprimait finalement un désordre, une confusion, jusque dans les relations, et c'est pour ça qu'à un moment, Dieu va dire à Abraham, alors que sa famille est déjà partie d'Ur en Chaldée, mais elle va s'arrêter en cours de route. Théra, son père, ne va pas aller plus loin que Haran. Et finalement, alors qu'il avait décidé d'aller jusqu'à la terre de Canaan. Et finalement, c'est Abraham qui va continuer. Et donc, on va partir de cette parole, tu peux l'afficher, qui exprime justement ce principe de vie qu'on retrouve dans Genèse 12:1, où Dieu dit à Abraham, « Va, quant à toi, hors de ton pays, hors de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Il dit déjà, va hors de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père. Ça, c'est un premier mouvement. Tout principe de vie, toute loi de vie de Dieu, il y a deux versants. Il y a un versant négatif, il y a un stop, et puis il y a un versant positif. Là, je parle du versant négatif. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Abraham ? Il est en train de dire, va-t'en de ce désordre. Va-t'en de ce désordre, va-t'en de cette confusion. Et c'est ce qu'il nous dit à tous. Va-t'en du désordre, de la confusion, des relations dans lesquelles bah, tu as été construit. Tu t'es construit parce que le fait est que c'est plutôt bancal. Depuis que nous sommes sortis de cette loi que Dieu avait posée et qui nous donnait la sécurité. Et de grandir en lui dans la sécurité. Qu'est-ce qu'elle dit finalement ? Qu'est-ce que dit ce principe de vie ? Quand Dieu dit « va-t'en de ce désordre », il dit « ne te mélange pas à l'autre ». Ne te mélange pas à l'autre. Nous sommes créés avec une identité. Et parfois, nous pouvons être dans ce qu'on pourrait appeler la fusion ou la confusion. Quand on est, par exemple, on peut voir des couples qui sont fusionnels. Alors, quand c'est au moment de la lune de miel, ça va, parce que c'est normal. Et quand c'est tout le temps comme quand je ne peux pas penser à ma manière, indépendamment de l'autre, j'ai tout le temps besoin de l'autre, je ne peux pas vivre absolument pas sans lui, mais d'une manière qui est excessive. Ça arrive aussi quand quelqu'un a grandi parce qu'il a eu un parent qui est fusionnel. C'est sans juger, hein, parce que finalement, la personne grandit avec quelqu'un qui ne l'autorise pas à être qui il doit être. Il ne l'autorise pas à penser à sa manière. Ça arrive aussi quand on est dans la confusion des places, des rôles, des responsabilités. Quand, par exemple, un enfant va grandir dans un milieu où des adultes ne prennent pas leurs responsabilités parce qu'ils ne peuvent pas ou parce que ça dysfonctionne, parce qu'ils ne veulent pas. Et puis du coup, on va retrouver des enfants qui vont finalement adopter un comportement d'adulte, même des enfants qui vont se retrouver parents de leurs parents. Je connais comme ça une dame qui, dont la mère avait un problème d'alcoolisme et qui, très longtemps, jusqu'au début de sa vie adulte, elle s'est trouvée à être la mère de sa mère. Et même, sa mère a fini par avoir une maladie d'Alzheimer et puis du coup, eh ben, elle a continué. Ben voilà, c'était vraiment compliqué. Il y avait une sorte de confusion. Je pense aussi à une personne qui, à un moment où elle a eu plusieurs responsabilités dans sa vie, une dame, elle était tout le temps dans l'activité. Elle n'arrivait jamais à se poser. Jamais à se poser. Il fallait qu'elle soit efficace tout le temps. Et en fait, à un moment, elle réalise que quand, par exemple, ils allaient à une journée de ski avec son père, ils ne pouvaient pas se poser, même au moment de manger. Le père restait debout, il fallait se dépêcher de manger, parce que, voilà, il fallait profiter la journée à fond. Sauf que tout était comme ça. Tout était comme ça. Et du coup, elle n'a jamais pu se poser. Mais ça, ce n'était pas à elle. Ce n'était pas à elle. Et là, il y avait une confusion. Cette loi, donc ne te mélange pas à l'autre. Quand Dieu dit aussi à Abraham, va-t'en de ce désordre, c'est, on peut le comprendre, ne cherche pas à avoir une emprise sur l'autre. Ne cherche pas à contrôler l'autre. Et si souvent, notamment quand on est parent, d'adolescent en particulier, c'est là qu'on vit ça. Là, les ados nous mettent dehors. Mais si souvent, on peut être dans quelque chose où on va essayer de contrôler l'autre. On ne le laisse pas décider de sa vie. Quand on nie les sentiments de quelqu'un, quand on nie ses désirs, quand on veut absolument arriver à quelque chose que l'on souhaite, mais sans respecter finalement que l'autre puisse avoir un avis différent, sans lui donner la possibilité de cheminer aussi. Ben, on est dans cette emprise. S'en aller loin de ce désordre, c'est aussi, ça peut être s'en aller loin d'une emprise que l'on a vécue soi-même. Quand on a été sous l'emprise de quelqu'un, quand il y a eu des abus, quand on s'est laissé abuser, quand on est resté dans ce genre de relation. Je connais l'histoire d'un monsieur dont la grand-mère avait comme ça une emprise, une autorité qui était excessive. Et en fait, son petit-fils n'a jamais pu vivre sa vie, n'a pas jamais pu s'autoriser à vivre sa vie. Et le jour où il s'est rendu compte qu'il y avait cette emprise, il avait aussi une bague que sa grand-mère lui avait léguée. Et le jour où il a ôté cette bague, là, il y a quelque chose, il a senti qui est parti. Et il a pu, c'était dans un cheminement spirituel, et il a pu avec le Seigneur, et il a pu, je précise avec le Seigneur, et il a pu vivre sa vie. S'en aller loin de ce désordre, ce principe de vie, il dit aussi, ne convoite pas ce que l'autre a ou ce que l'autre est. Combien de fois on peut se comparer, comme je disais au début, on peut se comparer à l'autre. C'est pas la même chose que on admire quelque chose chez quelqu'un, on se dit « Waouh, j'aimerais avoir ça !» Mais pas dans le sens où... c'est plutôt dans le sens du partage. C'est dans le sens où on admire quelque chose qui est porteur de vie. Mais c'est pas dans le sens où on n'est pas satisfait de quelque chose en soi. On n'est pas satisfait de qui l'on est. On n'est pas satisfait de ce qu'il en a. Et on se dit que l'autre, il est mieux. Ou ce qu'il a, c'est mieux. Là, c'est de la convoitise. Et c'est un chemin de mort. C'est un chemin de mort. Et donc Dieu dit à Abraham, va-t'en, loin, loin de tout ça. Et il nous dit la même chose. Ce principe de vie de Dieu, si tu veux vivre, ne te mélange pas à l'autre. N'essaye pas d'avoir une emprise sur lui. Ne reste pas dans l'emprise de quelqu'un. Ne te laisse pas abuser. Pose tes limites. Ne convoite pas ce qu'il a ou ce qu'il est. Ne sois pas dans la confusion. Sois à ta place. Parce que tous ces chemins sont des chemins de mort. Là, c'est un stop, un feu rouge. Et ensuite, à côté de ça, Dieu dit à Abraham, va vers le pays que je te ferai voir. Va vers le pays que je te ferai voir. Et quand Dieu dit « va » à Abraham, en hébreu c'est « l'er l'era ». L'er l'era, ça veut dire aussi, on peut le traduire « va vers toi ». Va vers toi. Dieu est en train de dire à Abraham « tu es unique ». Tu as ton propre chemin. Celui que je connais. C'est une parole qu'on peut retrouver, tu peux mettre le diapo, c'est une parole qu'on peut retrouver aussi dans d'autres versets. C'est un principe qu'on peut retrouver dans d'autres versets. Quand, par exemple, de nouveau avec Abraham, Dieu va lui dire, mais tu ne te nommes plus Abraham, père élevé, mais Abraham, père d'une multitude. Et ça, c'est lié à la promesse que Dieu a faite à Abraham, tu auras un peuple innombrable. Ça veut dire que de marcher dans ce principe de vie, c'est ce qui fait que la promesse de Dieu qui est sur nos vies va pouvoir se déployer. Dieu est en train de dire à Abraham, tu es unique, je t'ai donné un nouveau nom. Et ce principe de vie, on le retrouve aussi, alors là on était dans le premier livre de la Bible, on le retrouve dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse. On peut le retrouver dans d'autres versets aussi, mais voilà, on le retrouve notamment dans le dernier livre de l'Apocalypse, quand Jésus s'adresse aux églises, et notamment à l'église de Pergame, et là qui lui dit, au verset 17 du chapitre 2, à celui qui vaincra, au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai aussi un caillou blanc sur lequel est inscrit un nouveau nom que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Cette parole, elle veut aussi dire que ce nouveau nom, nous avons un nouveau nom. Comme Dieu a nommé Abraham, Abraham, nous avons chacun un nouveau nom. Nous avons chacun un nom en Dieu. Abraham, c'était le nom que Terah lui avait donné, son père. Mais il y a le nom que Dieu va lui donner. Chacun, nous avons un nouveau nom. Un nouveau nom, la Bible le dit, que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. Vous avez un nouveau nom, chacun. J'ai un nouveau nom que moi seul connais. Que moi seul connais en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce principe de vie, dans cette loi de vie, dans son sens vital, elle nous dit, mais tu es créé unique. Tu es créé unique. Il n'y a personne d'autre comme toi. Ça, c'est marcher dans le sens de la vie. Tu es aimé unique. Je ne sais pas si c'est bon pour l'enregistrement. Tu es aimé unique. Ça veut dire que Dieu t'aime d'une manière unique. Il a une sérénade unique pour chacun. Vous rendez compte? Il aime ton voisin d'une manière dont il n'aime pas. Enfin, il t'aime d'une manière dont tu n'aimes pas ton voisin ou ta voisine. Ça ne veut pas dire qu'il aime moins ton voisin ou ta voisine, qu'il t'aime moins toi. Ça veut dire qu'il aime différemment chacun. Ce n'est pas en termes de quantité. Il aime personnellement chacun. Il t'aime en tant qu'être unique. Il aime ce que tu as d'unique. Il a fait exprès de te faire unique. Et ce principe de vie dit donc aussi, deviens toi-même en Dieu. Va vers ceux qui t'appellent. Tu as un nom. Le nom, c'est ce par quoi Dieu t'a appelé, ce nom nouveau. C'est la vocation. Tu as un appel que personne d'autre a. Si tu ne le remplis pas, si tu ne marches pas dans cette route, si Abraham n'avait pas marché dans cette route, qui est-ce qui aurait marché dans cette route-là? En tout cas, Abraham n'aurait pas été dans sa vocation. Et chacun d'entre nous, nous avons une vocation. Il y a un chemin pour toi. Je suis appelé à manger ce que Dieu me donne à manger à moi. Je n'ai pas à manger ce que mon voisin, ma voisine a à manger. Il a une nourriture, une manne cachée pour chacun d'entre nous. Pour chacun. Et enfin, principe de vie, il dit aussi, tu es créé et aimé unique. Deviens toi-même en Dieu, dans une juste relation avec les autres. Dans une juste relation avec les autres. En allant vers une juste relation avec les autres. Et c'est en étant, justement, en se sachant créé et aimé unique et en marchant notre propre chemin, que là, on donne la porte, on ouvre la porte à ce que les relations qui ont été cassées, qui ont été complètement bouleversées, qui ont été et ben là, elle se réordonne. Elle se réordonne. On n'a pas à attendre que c'est l'autre. C'est à nous de le faire. Quand là, je parlais des parents, c'était pas un, dans certaines situations, c'est pas un jugement. Dieu, il nous dit là-dedans, ok, il s'est passé ça dans ta vie, mais toi, c'est quoi ta part? Est-ce que tu fais ta part? Est-ce que tu fais ton bout de chemin à toi? Et ça, ça ne t'appartient qu'à toi, parce que tu es unique. Et enfin, Dieu dit à Abraham, il nous dit à nous, donc il nous dit à chacun, va vers toi. Et d'ailleurs, ça rejoint les paroles de Jésus. Quand Jésus vient dire, non, je suis venu, je ne suis pas venu mettre la paix, mais je suis venu mettre l'épée entre un père et son fils, entre une mère et sa fille, etc. Entre un frère et une sœur, entre deux frères, je ne sais pas si le livre va jusque-là, mais c'est toutes les relations. Celui qui aime son père, son fils, sa fille, sa mère, son frère, sa sœur, plus que moi, n'est pas digne de moi. C'est une expression aussi de cette loi du Fils de Dieu. Et Dieu dit à Abraham, va vers le pays que je te montrerai. Il te dit ce matin, va vers le pays que je te montre. Et c'est quoi le pays que Dieu nous montre? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ, le pays que Dieu nous montre. Quand Dieu nous dit, va vers toi, il nous dit, va vers toi en Christ. Et va vers Christ en toi. Va vers toi en Christ, parce que celui que tu es, il est destiné à être transformé à l'image de Dieu, à être fils de Dieu. Et c'est en grandissant en Christ que je deviens celui que je suis. Christ, il me vole pas ma personnalité. Il me donne pas la... Il me vole pas ma personnalité, mais il me révèle à moi-même, selon ce que Dieu a voulu, la manière dont Dieu m'a créé. Et c'est aussi va vers Christ en toi, parce que Jésus est venu mourir à la croix et ressusciter pour vivre en nous, pour qu'on le prenne en nous. Et c'est en le cultivant en nous, en cultivant sa présence en nous, que nous devenons. Nous devenons qui nous sommes, et que nous marchons sur ce chemin de notre appel. Alors comment faire? Comment retrouver qui je suis? Je ne sais pas dans quelle mesure ce que j'ai dit des relations, ça vous parle, ça fait écho à des choses personnelles ou pas, que le Seigneur vous éclaire. Mais voilà, on est tous le fruit de relations qui ont été plus ou moins bancales. Et comme je le disais au début, on a perdu le sens de qui on est. Alors comment le retrouver avec Christ? Comment le retrouver en Jésus-Christ? La première chose, c'est en laissant le Saint-Esprit m'éclairer sur mes manières d'être. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je peux être dans la confusion avec quelqu'un? Que je peux prendre un rôle de responsabilité qui n'est pas la mienne? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je peux être dans une emprise avec quelqu'un? Soit moi-même, en essayant de le contrôler, soit en me laissant contrôler. Qu'est-ce qui fait que je peux être dans la convoitise? Il y a des raisons à cela. Comment est-ce que j'ai réagi à telle relation? Le Saint-Esprit, il sait pourquoi. Et quand il m'éclaire et que je vais mettre des mots là-dessus, il y a une libération qui vient. Comme cet homme quand il a jeté la bague. Comme cette jeune femme dont je vous ai parlé, quand elle a réalisé cela, et bien du coup, elle a pu commencer à marcher sur ce chemin où elle n'était pas tout le temps sous stress. Mais elle arrivait à se poser, parce qu'elle a réalisé que ce n'était pas à elle. Laissez le Saint-Esprit m'éclairer sur mes manières d'être. C'est la première chose. Me repentir aussi de ces idolâtries. Parce que quand je n'ai pas été à ma place dans ces relations-là, quand par exemple, j'ai essayé de contrôler l'autre, c'est une sorte d'idole. Quand j'arrive pas à être moi-même et que je vais chercher quelque chose chez l'autre, plutôt que de le chercher chez Dieu, c'est une sorte d'idole. Et je quitte ces relations-là en reconnaissant l'idolâtrie qui a été la mienne. «
La troisième chose, le troisième pas, on pourrait dire, c'est en renonçant à ces relations-là. En renonçant à ces relations-là, malgré les peurs que ça peut susciter. Mais si je sors de cette relation-là, comment l'autre, est-ce qu'il ne va pas se sentir abandonné ? Quand vous avez, par exemple, dans les familles, quelqu'un qui a eu un frère, une sœur qui est malade, et qui très malade, et qui ne s'autorise pas à vivre sa vie, par exemple, vous voyez des enfants comme ça qui vont être en échec scolaire, parce qu'ils ne s'autorisent pas à réussir. Parce que l'autre à côté qui est malade, lui, qu'est-ce qu'il va réussir ? Et ça, il y a quelque chose qui est faux là-dedans. Et voilà, l'enfant, il ne peut rien de faire ça, quelque part. Mais il y a une transgression. Et ce frère, ce sœur est une sorte d'idole. Mais voilà, il y a cette peur de est-ce qu'il va aller moins bien ? Est-ce que j'ai le droit de réussir, moi ? Y renoncer malgré ses peurs. Et il y a un autre pas que l'on peut faire. Tu peux aller à l'autre diapo. Quand des liens ont été très forts, il y a des liens spirituels qui se forment. Il y a des liens spirituels qui se forment. Et le Seigneur nous dit que tout ce que l'on déliera sur terre sera délié dans le ciel. Et parfois, quand des liens comme ça ont été forts, on a été par exemple sous une emprise, et qu'on continue de marcher là-dedans, de prier en Jésus, de prier en son nom, ça va nous permettre de sortir de cette relation. S'il y a des liens spirituels, c'est trop fort, quelque chose qui est trop fort. Seul, c'est au-delà de notre volonté. Comme cette personne, quand elle a enlevé sa bague, et enfin, aller vers Christ, aller vers moi en Christ, et vers Christ en moi, c'est tout simplement en me nourrissant de qui est Jésus, en cultivant cette relation avec Jésus, en cultivant cette relation au travers de la parole, en allant chercher, mais qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Qui est ce Fils de Dieu, là où moi je suis appelé à être fils ou fille de Dieu ? Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Amen. Je vais vous prier. Seigneur, tu connais nos vies à chacun et tu sais à partir de quelles relations on s'est construit. Tu sais ce qu'il y a eu de juste dans ces relations. Tu sais ce qu'il y a eu de faux. Et Seigneur, je te prie de nous montrer tout simplement à chacun, à chacune ici, là où on a marché, dans une relation qui n'était pas ajustée, qui n'était pas selon toi. Là, on a marché sur un chemin de mort et pas un chemin de vie. Là, on s'est oublié soi. Là, on a perdu le sens de qui on était. Et Seigneur, je te remercie de nous ramener vers qui on est en toi ce matin. Je te remercie de parler à nos cœurs précisément. Je te remercie, oui Seigneur, pour ce que tu vas faire maintenant.